Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Culture Monde, le magazine d'actualité internationale de France Culture. Une émission préparée avec Bertille Bourdon, Léa Capuano, Gwendoline Troiano, Bruno Barada et Nora Litoussi, réalisée par Vivian Lecuivre et à la technique ce matin, c'est Ruben Carmazine. À 11h20, ce sera la table ronde d'actualité en partenariat avec le journal Le Monde. Bonjour Marc Semo.
Bonjour.
À nos côtés, comme chaque vendredi, pour animer la discussion, nous reviendrons sur la situation en Géorgie, où une partie de la population se mobilise depuis un mois contre un projet de loi du gouvernement, dite « loi sur les agents de l'étranger », qui pourrait, selon les manifestants, devenir un outil pour entraver ou bâillonner les activités de la société civile et qui risquerait surtout de remettre en cause le projet d'adhésion de la Géorgie à l'Union européenne. Pourquoi cette loi est-elle devenue une priorité du gouvernement? En quoi pourrait-elle déterminer l'avenir politique et géopolitique de la Géorgie? Nous en discuterons avec nos invités. Charles Urgervitz, bonjour.
Bonjour.
Et bienvenue, vous êtes historien, professeur émérite à l'INALCO. Et à vos côtés, Tornike Gordadze, bonjour.
Bonjour.
Bienvenue également, vous êtes politiste, enseignant à Sciences Po et ancien ministre d'État pour l'intégration européenne et euro-atlantique de la République de Géorgie. C'était de 2010 à 2012. Rendez-vous dans une vingtaine de minutes. Et pour commencer, eh bien, place à la séquence retour de terrain. Et nous sommes ce matin du côté de l'Afghanistan. L'Afghanistan qui se ferme peu à peu au reste du monde depuis le retour des talibans en 2021, tandis que les femmes afghanes se retrouvent progressivement exclues des espaces publics. Parcs, jardins, salles de sport ou salons de beauté leur sont désormais interdits. La plupart des emplois également et surtout l'accès à l'école qui n'est désormais autorisé que jusqu'à 12 ans pour les petites filles, 10 ans dans certaines provinces. Et dans cette nuit qui s'abat sur les Afghanes, pour reprendre l'expression de notre invitée Solène Chalvon-Fioriti, une petite lueur d'espoir continue à vibrer à travers les ondes. C'est une radio, Radio Begum.
Éducation et apprentissage par la radio. Chers élèves, si à cause d'un problème ou de restriction, vous ne pouvez pas aller à l'école, vous pouvez maintenant suivre votre scolarité grâce à nos apprentissages basés sur les livres scolaires sur Radio Begum.
Bonjour Solène Chalvon-Fioriti.
Bonjour.
Vous êtes journaliste indépendante, vous signez pour Arte, Radio Begum, la voix des résistantes. Un reportage tourné à la fois auprès de celles qui écoutent et de celles qui fabriquent les programmes de Radio Begum, car il s'agit d'un média fait par les femmes et pour les femmes en Afghanistan. Que signifie ce nom, Radio Begum ?
Begum, en fait, c'est un mot qui veut dire reine. Enfin, pas exactement reine, mais c'est entre princesse et reine, donc c'est vraiment... Je pense qu'ils ont évidemment choisi ce titre pour essayer de redonner de la majesté et de redonner de la noblesse, évidemment, aux plus de 20 millions de filles afghanes dans le pays qui sont, comme vous l'avez dit, privées d'école à partir de 12 ans. Je crois que c'était vraiment dans cet objectif-là.
Éducation et apprentissage par la radio, c'est ce que dit le générique qu'on vient d'entendre. L'idée, c'était de prendre le relais, voire de se substituer aux écoles qui ont été fermées depuis le retour des talibans.
En fait, c'est surtout de... Je pense que l'idée, c'est surtout d'appuyer en fait le réseau des écoles secrètes et des écoles clandestines qui sont en fait qui se comptent maintenant en dizaines de milliers en Afghanistan. Maintenant, des dizaines de milliers d'écoles clandestines, ça ne veut pas dire, malheureusement, des dizaines de milliers d'écoles souterraines. Vous voyez, ce n'est pas des écoles. Elles sont en très, très mauvais état, souvent, ces écoles. Et puis, une école, ça peut à la fois vouloir dire trois filles dans une cuisine, trois filles dans un salon, dix filles dans une grotte. Vous voyez, c'est des filles qui se retrouvent parfois à la mosquée quand elles ont l'accord du mollah du village. Donc, elles ont plein de formes différentes. Mais en tout cas, ce qui les réunit toutes, c'est qu'elles sont très, très, très précaires, avec des jeunes filles de plus en plus pauvres, qui souvent ne mangent pas, qui n'ont plus de livres. Et puis surtout, qui sont gagnés par la dépression, parce qu'apprendre pourquoi en fait, apprendre pourquoi quand c'est en plus dangereux de sortir de chez soi pour se retrouver à l'école, quand on sait qu'il n'y a pas de perspective d'université ensuite, ni de travail. Et comme en plus, elle voit très bien que l'univers du travail qui reste ouvert dans certains secteurs, attention, c'est vraiment important de le rappeler, le secteur privé notamment, mais elle voit que même, même le secteur privé, qui était le secteur privilégié où on pouvait encore travailler, par exemple chez un tailleur ou dans les métiers du textile, elle voit que les salons de beauté sont fermés, que quantité de magasins sont fermés, donc les filles dans les écoles, elles sont extrêmement déprimées. Et donc la radio, elle a vraiment été pensée sincèrement pour ça. Je crois que c'est vraiment au-delà de l'apprentissage. D'ailleurs, vous le voyez, on le voit très bien dans le film. En fait, les professeurs dans les écoles clandestines, elles écoutent les 10 premières minutes du cours et les 10 dernières. Elles suivent pas tout l'enseignement de la radio. En fait, ça les aide à se caler et puis ça les aide à sentir qu'elles sont dans un système plus vaste où elles sont voilà en lien dans un maillage avec d'autres sœurs dans leur pays. Et je crois que c'est vraiment la dimension psychologique de la radio qui est très importante. C'est juste de redonner un peu de joie et de l'espoir, même pour les filles qui sont dans des vallées encaissées et très 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 loin des villes.
Et on voit bien comment chaque groupe d'élèves de ces écoles clandestines ou chaque fille, parfois seule dans son salon, s'appuie de manière différente sur ces programmes de Radio Begum. Comme vous le disiez, on en écoute parfois 10 minutes pour appuyer un cours. Certaines les suivent seules chez elles. Comment expliquer que Radio Begum, qui n'est pas une radio clandestine, hein, c'est bien une radio qui a l'autorisation d'émettre, comment expliquer qu'elle reste autorisée et qu'elle puisse diffuser des programmes scolaires alors que, visiblement, les talibans ont l'intention de priver les filles d'éducation ?
Parce que c'est là, c'est toute la subtilité du... En fait, c'est sur cette subtilité que s'appuie cette radio. C'est-à-dire que les talibans interdisent la scolarité. C'est-à-dire que les talibans interdisent l'école. Vous n'avez pas le droit d'aller à l'école. Ce qui les dérange dans l'école, au-delà du corpus, bien sûr, scolaire, qui, de toute façon, pose problème à l'émir taliban et à sa cour proche, donc qui fait qu'ils vont refaire les corpus scolaires et bien sûr et les livres, etc. Mais au-delà de ça, vraiment, ce qui les dérange profondément et qui fait qu'ils laissent les garçons y aller et pas les filles, c'est vraiment le trajet. C'est que les filles sortent de chez elles. Donc, ils interdisent l'école, mais pas l'éducation. C'est-à-dire que tant que vous éduquez dans une boîte, chez vous, il n'y a aucune raison qu'ils l'arrêtent. Et d'ailleurs, très très vite, pas simplement les radios, mais les télévisions, ont aussi les télévisions afghanes. D'ailleurs, ça se sait assez peu, puisqu'on parle toujours de l'Afghanistan en racontant comment ça va mal et comment c'est terrible. Mais la vérité, c'est que les médias, pour ceux qui n'ont pas été fermés, les médias, ils ont vraiment assuré une continuité tout de suite, parce qu'en fait, ils avaient déjà commencé pendant le Covid. Donc, on avait déjà des programmes éducatifs sur les télévisions privées et des radios. Ce qui fait, en revanche, qu'elles sont très malheureusement, effectivement, sans doute en sursis, et qu'elles sont en danger, c'est que ce sont des voix de femmes. Et alors, au début, ça leur a servi. Pourquoi ? Parce que la radio, c'est le média de la voix, donc pas de l'image, donc de la voix qui peut être anonyme. Donc jusque-là, quand même, ça, si vous voulez, ça n'attaque aucune ligne rouge talibane qui empêche qu'une femme montre son visage. Là, elles ne montrent pas leur visage. Elles ne rient plus. Vous avez vu, hein, les rires sont interdits. Elles ne rient plus à l'antenne.
Les blagues sont interdites.
Elles refusent systématiquement. Les blagues sont interdites et surtout les appels d'hommes. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'on puisse entendre un homme et une femme discuter à la radio. Mais ça a l'air de rien, mais en fait, elles ne savent pas quel est le genre de la personne qui appelle. Donc, elles savent que sur un truc comme ça, aussi dérisoire, elles risquent une fermeture. Et il y a d'ailleurs eu une radio pour femmes l'année dernière, à l'est du pays, qui a été fermée, justement, accusée d'être non convenable, voilà, dans le fait qu'elle prenait des auditeurs masculins au téléphone. Donc, en fait, elles font très, très attention. Là, maintenant, ils s'attaquent à certaines des thématiques qui sont déployées, parce que Radio Begum, c'est une radio qui est éducative, mais qui diffuse aussi l'après-midi des programmes socio-médicaux, hein, parce que vous savez que le secteur de la santé, c'est aussi un secteur où les talibans, progressivement, écartent les femmes. Et en fait, par exemple, sur la question de la pilule contraceptive, qui était vraiment un programme fort de Begum les premiers mois. Maintenant, les talibans empêchent toute conversation sur la contraception. Voilà, dans un pays où les femmes ont en moyenne 6 enfants et dans leur minorité. Donc c'est terrible, mais le cœur de la radio, c'est de continuer. C'est de continuer, malgré les règles, le plus possible. Et même s'il ne reste que les programmes éducatifs in fine, elles tiendront quand même. Parce que c'est vraiment devenu le sel, vraiment l'âme de cette radio.
Même si chacune est déployée à son poste, aujourd'hui j'ai besoin que vous me fassiez un point sur vos tâches cette semaine.
Nous, on a notre édition spéciale sur la malnutrition qui est prête. Et le reportage aussi, on peut le diffuser. Pour le reste, on attend encore tes validations.
Nous, on a reçu moins de sujets de nos correspondants locaux à Herat, parce qu'ils ont eu plein de problèmes après le tremblement de terre. Ils ont perdu des proches. C'est pour ça qu'ils nous ont envoyé moins de reportages.
Extrait d'une conférence de rédaction au sein de Radio Begum, animée par Saba, c'est la directrice de Radio Begum, elle a 26 ans. La radio emploie une trentaine de femmes. Qui sont ces femmes et ces jeunes femmes, puisque la plupart paraissent très jeunes?
En fait, c'est vraiment une question sans... merci de poser cette question, parce que ce qui fait que cette radio fonctionne, de mon point de vue, je connais bien l'Afghanistan, j'y ai vécu, j'y travaille depuis très très longtemps, depuis 13 ans. En fait, ce qui fait que ces filles existent, ces filles qui sont donc le pur produit des 20 dernières années, des Kaboulis qui, donc en ville, ont eu accès à des universités, à des bourses. Vous avez vu, certaines d'entre elles parlent anglais. Alors que vous pouvez être sûr que toutes les mamans de ces jeunes filles-là, ces jeunes femmes-là, sont analphabètes. C'est vraiment la génération, ces 20 dernières années, qui a eu accès à l'éducation, alors que les précédentes, à cause de la guerre, n'y avaient pas eu droit. Et en fait, cette génération, c'est la génération qui est la plus ciblée par les talibans. C'est cette génération qu'il faut absolument écraser. Et d'ailleurs, ils vont sans doute réussir à l'écraser, hein, puisqu'il n'y a plus de système éducatif. Et donc, comme les élites sont parties très majoritairement ou cherchent à partir, pour l'écrasante majorité, ils sont en capacité d'écraser cette génération. Mais donc, ces filles-là, ce qui fait que, et c'est ce qui rend cette radio extraordinaire, alors il y en a d'autres qui commencent à émerger dans le sud du pays, ces filles-là, ce qui fait qu'elles durent et qu'elles continuent d'aller travailler et qu'elles ne sont pas empêchées, c'est parce que Radio Begum, depuis des années, hein, c'est d'abord ça existait bien avant, ça faisait partie d'une boîte de production médiatique qui existait depuis très longtemps, en fait, elles sont très très low profile. Elles n'ont jamais été affichées avec les Occidentaux, elles n'ont jamais été dans des quartiers, elles sont dans un quartier extrêmement populaire, elles n'ont jamais été dans les quartiers sécurisés, vous savez, où pendant des années on passait avec des voitures blindées, des checkpoints partout, etc. Elles se sont toujours habillées de façon très très modeste, ce qui a beaucoup compté dans leur image et dans les provinces. Et vraiment, cette culture du low profile fait que il y a une grande... Par exemple, les familles des filles sont toutes au courant de l'endroit où elles travaillent. Elles sont toutes venues valider l'endroit où elles travaillaient. C'est une navette, vous voyez dans le film, c'est une navette qui vient les chercher tous les matins. Ça, c'est pas une obligation talibane, hein. Ça, c'est vraiment parce que la radio sait que c'est pas du tout que les talibans maintenant le problème, c'est vraiment les familles des journalistes. Parce que les familles des journalistes, personne n'a envie d'avoir sa fille dehors avec les talibans. Tout le monde a peur. Donc pour convaincre tout le monde, il faut être le plus modeste possible, le plus respectueux possible des traditions islamiques. On couvre le visage dehors. Vous avez vu, les filles à l'extérieur et à l'intérieur, elles sont pas du tout habillées de la même manière. Et surtout, il y a cette obligation pour tout le monde de ne pas parler de politique. De ne pas parler de politique à l'antenne. Il ne vous aura pas échappé que les filles, on n'a pas gardé un seul sonore où elles parlent des talibans. Elles ne s'attaquent pas du tout frontalement au régime. Absolument pas. Elles composent avec ce régime et elles composeront avec ce régime le plus longtemps possible.
Et d'ailleurs, elles vous le disent, leur force leur vient de leur capacité d'adaptation, leur capacité à absorber et à répondre à toutes les restrictions qui leur sont imposées pour continuer à émettre coûte que coûte, pour continuer à faire passer leur message. Et sur Radio Begum, il y a, vous le disiez, les programmes scolaires, il y a beaucoup de choses autour de la santé et il y a aussi un programme sur les questions religieuses.
Bonjour chère sœur, bienvenue dans l'émission.
Bonjour Ilaï, merci pour votre émission. Votre voix m'est devenue si familière à la radio que j'ai l'impression de vous connaître et de me sentir moins seule. Je voulais savoir, dans ma ville de Kandahar, les femmes ne travaillent plus, ou seulement dans la couture ou dans les hôpitaux. Pensez-vous que l'islam ne nous autorise que ces emplois ?
Écoutez, il n'est écrit nulle part dans l'islam que les femmes ne doivent pas travailler. En fait, le Coran mentionne même que nous devons travailler très dur.
Extrait à nouveau de votre documentaire Solène Chalvon-Churiti sur Radio Begum pour Arte. Cette séquence, elle est intéressante à voir, à entendre, mais aussi à voir parce que sur les traits du visage de Hilay, l'animatrice de cette émission sur les questions islamiques, on la sent écouter avec une grande attention son auditrice préparer sa réponse. Et vous le disiez, elles n'ont pas le droit de parler de politique, mais quand elles parlent de religion, on les sent aussi sur une crête, sur une ligne de crête assez difficile.
Ouais, tout à fait. Et en même temps, c'est-à-dire qu'il faut comprendre que c'est donc Hilay dont vous parlez, elle est doctorante. Hein, c'est quelqu'un qui a fait 7 ans d'études en droit chariatique. Donc c'est pas n'importe qui cette jeune femme. Et elle, en fait, ce qu'elle dit d'ailleurs sur le passage que vous venez de diffuser, si vous voulez, s'il y a bien quelque chose qui rend dingue les talibans, c'est bien plus ce genre de discours d'ailleurs que de faire des cours de biologie pour les écoles clandestines qui sont cachées, parce que les talibans ont horreur des gens qui les défient sur les questions religieuses. Tout le monde les défie d'ailleurs sur les questions religieuses, à la fois à l'extérieur du pays, le Pakistan, le Qatar, l'Arabie Saoudite, tout le monde a essayé, El Azhar en Égypte, tout le monde a essayé de les reprendre sur leur conception de l'islam, notamment évidemment sur la question de la santé, l'éducation des filles. Et puis quand ils essayaient de reprendre Kaboul ces dernières années, quand ils remontaient vers Kaboul, ils se battaient en fait avec des seigneurs de guerre ou avec des parlementaires de la République afghane qui étaient très souvent des hommes de religion et des docteurs vraiment en sciences islamiques qui essayaient de leur faire la morale en permanence là-dessus, si bien que très souvent les talibans vous accusent, lorsque vous vous basez sur le corpus idéologique, de blasphème. Parce que si vous êtes contre la parole de l'émir, bah vous êtes contre la parole du prophète. Je caricature, hein, mais c'est un peu ça. Et donc Hilay, ça paraît anodin là ce qu'elle vient de dire comme ça sur une voilà dans une petite radio communautaire de Kaboul, mais c'est non seulement c'est extrêmement courageux, mais en plus ça se sent pas, mais c'est extrêmement bien calibré. C'est-à-dire que elle ne s'attaque pas à l'interprétation des talibans du Coran. Elle parle du Coran telle qu'elle l'a apprise elle, on n'a pas pu passer tout le sonore, mais telle qu'elle l'a apprise elle à l'université de Kaboul dans le département des sciences islamiques. Elle fait toujours très attention à se référer au texte coranique et non pas à diverses interprétations, mais elle sait que c'est sans doute d'ailleurs l'émission la plus écoutée du programme. Elle sait qu'elle peut elle peut recevoir un coup de téléphone. Pour l'instant elle ne l'a pas reçu. Mais je peux vous assurer, parce que j'ai passé beaucoup de temps avec elle, puis je la connais depuis nombreuses années, c'est quelqu'un qui passe des heures à préparer chaque mot qui va être prononcé, parce qu'elle sait qu'elle peut être à l'origine du coup de fil qui fera fermer la radio.
Ce qu'on voit aussi, Solène Chalvon-Churiti, dans tout le travail de cette trentaine de femmes qui œuvrent à la fois du côté technique, du côté des reportages, du côté des chroniques à faire vivre tous les jours Radio Begum, c'est qu'elles doivent tout faire elles-mêmes parce qu'elles sont privées de collaboration avec les hommes et donc elles sont forcées de devenir autonomes sur toutes les tâches, et y compris par exemple réparer des antennes. C'est ce qu'on voit, on voit la directrice s'atteler à la réparation d'une antenne sur un site dans une province. Il y a l'idée d'être finalement obligé aussi de se dépasser à tout niveau du fait de toutes ces contraintes.
Oui, alors là bien sûr c'est propre aux journalistes de Radio Begum. Malheureusement, il y a peu de femmes afghanes aujourd'hui, hormis pour celles qui ont été privées de collège et qui maintenant travaillent dans des champs sur des tâches qui étaient plutôt des tâches masculines. Il y a peu de femmes qui vont vous dire j'ai appris un métier d'homme. C'est plutôt en réalité les femmes vous disent plutôt j'ai appris à ne plus rien faire et à être enfermée chez moi. Mais il est vrai que pour les métiers techniques, pour les métiers les métiers de montage, hein, donc là je parle vraiment du secteur journalistique, mais les métiers de montage, les métiers de tournage, comme les équipes mixtes ne sont plus du tout possibles, d'ailleurs vous avez vu, on voit aussi cette scène, hein, quand elles vont tourner dans cette clinique de femmes, on aurait vu un homme avant avec des caméras. Et puis surtout, je vous rappelle qu'on aurait vu un homme parce qu'avant, l'Afghanistan, c'était quand même tellement dangereux, tellement plus dangereux que maintenant, que là encore, pour des questions évidemment culturelles, les gens n'envoyaient pas leurs filles, le moins possible, leurs filles dehors et entourées par des hommes, parce que les journalistes étaient à l'écrasante majorité des hommes. Donc aujourd'hui, c'est vrai qu'elles ont envie d'apprendre ces choses-là. On retrouve plutôt les femmes pour les secteurs où on peut encore travailler, on retrouve plutôt des femmes qui ont envie d'investir les secteurs de la technique où elles seront à l'intérieur, et on voit plus les hommes se déployer à l'extérieur. Le cas de Sabah est chouette la directrice dont vous parliez, parce que effectivement, et là encore, c'est quelqu'un que je connais depuis longtemps, j'aurais jamais imaginé Saba, voilà, manipuler un espèce de générateur à 12 000 boutons, alors que c'était plutôt quelqu'un, voilà, qui était confortablement installé dans sa conférence de rédaction. Et je pense que c'est important d'entendre ça aussi, parce que, en fait, ce qu'elle dit à ce moment-là, c'est qu'elle est contente. De justement, comme vous le dites, elle est contente en fait d'apprendre davantage, et qu'elle, c'était le tout le sens pour moi de ce film, c'est-à-dire c'est de pas montrer toujours les Afghanes sous la burqa avec des mouches dans les yeux. Elles ne font pas que subir, elles se battent, elles ont de l'espoir, et vous avez vu, elles ont même encore par moment la possibilité de la joie
et de l'humour
du groupe, et ça c'est très important pour moi de les représenter de cette manière-là.
Eh ben je ne peux que conseiller, le mot est faible, de regarder ce reportage Radio Begum, la voix des résistantes, et c'est sur Arte. On fera un lien sur la page de Culture Monde. Merci infiniment, Solène Chalvon-Fioriti.
Merci beaucoup à vous.
Le flow, la rage, les mots de la rappeuse et militante afghane Sonita Alizadeh, qui dénonce les mariages forcés des petites filles en Afghanistan, destin auquel elle a elle-même échappé. Elle vit aujourd'hui aux États-Unis. Et direction maintenant la Géorgie.
France Culture, Culture Monde, Mélanie Chalandon.
Non au gouvernement russe, non à la loi russe. Mais plus encore, nous nous battons aujourd'hui pour nos droits, pour l'égalité, qu'il s'agisse de droits économiques ou de tout autre droit. Nous sommes donc ici pour défendre nos droits et notre liberté.
Je ne peux même pas imaginer que la Géorgie puisse un jour se tourner vers la Russie. Cela se passe à un moment où le rêve de la Géorgie de devenir une nation de l'Union européenne frappe à la porte. Parce que je ne veux pas retourner sous la domination de la Russie.
Témoignage recueilli par l'AFP le 28 avril dernier à Tbilissi, la capitale de la Géorgie, où des milliers de personnes manifestaient pour protester contre un projet de loi sur les agents de l'étranger. Une loi qui obligerait toute association ou ONG recevant plus de 20% de ses financements de l'étranger à s'enregistrer sous le label « agent d'influence étrangère ». Les Géorgiens redoutent que ce dispositif soit utilisé pour restreindre leur liberté et entraver les actions de la société civile. Ils craignent également que ce qu'ils considèrent comme un virage autoritaire ne compromette la perspective d'intégration à l'Union européenne. Il y a quelques mois, le pays obtenait le précieux statut de candidat à l'adhésion. Alors, quelles sont les véritables intentions du gouvernement à ce sujet? La Géorgie est-elle à l'heure des choix? On en discute avec Charles Urgevitz et Tornike Gordadze. Et on commence avec vous, Marc Semo.
Oui, Mélanie. Alors, effectivement, la Géorgie est au cœur du nouveau grand jeu, comme on appelait au XIXe siècle la rivalité des empires dans le Caucase et en Asie centrale. Le bras de fer à Tbilissi est lié très directement aussi au conflit ukrainien, ne serait-ce qu'en raison de la situation géostratégique de cette ex-république soviétique de Transcaucasie, qui est riveraine de la mer Noire et qui est devenue la mer Noire, un des principaux enjeux de l'affrontement entre Moscou et Kiev. Les Géorgiens et les Ukrainiens ont montré une même volonté d'indépendance dès l'effondrement de l'Union soviétique et un même désir d'intégrer l'OTAN et l'Union européenne avec la révolution des Roses en 2003 à Tbilissi, puis la révolution orange à Kiev. Les deux pays ont 20% de leur territoire occupé par les Russes. Depuis décembre, comme tu le disais, la Géorgie est aussi reconnue comme candidate à l'Union européenne, ce que désire l'écrasante majorité de la population. Mais Poutine, à cause de ça, veut désormais encore plus renforcer sa mainmise au travers d'un pouvoir contrôlé par l'oligarque Bichdina Ivanichvili, qui lui est proche. Ce pouvoir se montre maintenant pour ce qu'il est et ne fait même plus semblant de mener les réformes ouvrant la route vers Bruxelles. Bichdina Ivanichvili dénonce l'Occident et, je cite ses mots, le parti global de la guerre, donnant de plus en plus de gages au Kremlin et misant ouvertement sur la répression. Ce qui se joue dans les rues de Tbilissi avec les manifestations de masse, c'est d'une certaine façon ce que sera la frontière sud-est de l'Europe en un moment où l'Arménie aussi s'émancipe de Moscou. Vladimir Poutine ne cache pas ses ambitions néo-impériales sur l'Ukraine comme sur la Géorgie, et c'est aussi pour cela que cette crise nous concerne très directement.
Merci beaucoup Marc Semo pour cette introduction. Je voudrais qu'on commence par essayer de comprendre l'enjeu de cette loi qui est actuellement en examen au Parlement, qui doit repasser en troisième lecture le 17 mai. Il y a un an, la même loi, peu ou prou, avait déjà été examiné par le Parlement, et puis le gouvernement avait fait marche arrière devant la pression populaire. Comment expliquer cette nouvelle tentative alors qu'il avait déjà rencontré une très vive opposition il y a un an, Tornike Gordadze?
L'année dernière, au mois de mars, le gouvernement n'était pas prêt à faire passer cette loi par la force. Ils ont d'ailleurs, le Parlement l'a voté, et le Parlement ensuite a revoté, les mêmes personnes ont voté contre pour le retrait du projet de loi. Donc ça montre à quel point ce Parlement est totalement docile et soumis à la volonté de Bidzina Ivanichvili. Alors cette année, il y a deux éléments importants qui expliquent ce retour de ce projet de loi. Premier élément, c'est que, comme disait Marc, la Géorgie a eu le statut de candidat à l'adhésion à l'Union européenne. Il faut faire absolument quelque chose maintenant dans le camp russe pour saboter, pour empêcher ça. Cette décision de l'Union européenne a été une décision géopolitique. L'Union européenne se rend très bien compte que ce gouvernement géorgien n'est pas pro-européen. Mais par contre, à Bruxelles, on sait très bien que 80% de la population géorgienne souhaite le rapprochement avec l'Union européenne. Donc, avec la guerre en Ukraine, la Géorgie a eu aussi la porte de l'Union européenne s'est ouverte, entrouverte pour la Géorgie, mais l'Union européenne a accompagné cette décision de candidature, de donner la candidature à la Géorgie, de conditions, 9 conditions très strictes qui doivent être appliquées par le gouvernement. Évidemment, le gouvernement ne veut pas appliquer cela. Il s'agit de l'indépendance de la justice, de la transparence des élections, etc. Des règles de base pour ce qu'on appelle la bonne gouvernance. Et donc, le gouvernement ne veut pas, évidemment, appliquer ça et essaye de saboter cette marche vers l'Union européenne. Et c'est également une démonstration de loyauté ou d'allégeance vis-à-vis de la Russie, de Vladimir Poutine. Et deuxième élément qui explique ce retour, c'est qu'il y a des élections en Géorgie au mois d'octobre. Et le parti majoritaire, le rêve géorgien, ceux qui sont au pouvoir, n'est absolument pas assurer d'une victoire à ces élections. Donc l'objectif, c'est de détruire cette société civile qui est très forte et très, très, très puissante en Géorgie, également les médias indépendants, en étouffant avec cette loi. Cette loi, il y a l'article 8 de cette loi qui suppose, en plus de déclarer ces organisations d'organisations d'influence étrangère, ça autorise les organes d'investigation du gouvernement d'aller fouiller dans les communications privées, dans toute transaction financière qui concerne ces organisations.
Les médias, les associations, la société civile, j'allais justement vous demander, Charles Urgervitz, qui était visé par cette loi et qui pouvait être sous le coup de cette loi. Et puisque le mécanisme est le suivant, si on a plus de 20% de financement qui viennent de l'étranger, on doit s'enregistrer donc sous ce label, un label plutôt infamant d'agents de l'étranger. Est-ce que ça veut dire que beaucoup d'associations, d'organisations aujourd'hui en Géorgie bénéficient de financements étrangers, notamment européens?
Une très très grande partie des ONG bénéficient de financements européens et pour certaines américains. Donc il est clair qu'elles sont directement visées par le pouvoir. Et comme vient de le dire Tornike, ces organisations sont très actives, très réactives et bénéficient dans une partie importante de la population urbaine d'un très très large soutien. Il s'agit donc de les faire taire, il s'agit donc de les détruire, je pense tout simplement, même pas de les faire taire, de les détruire. Elles représentent un danger absolument majeur. D'autant plus qu'un certain nombre de responsables du REB géorgien connaissent très très bien ces mécanismes. Eux-mêmes ont travaillé dans des ONG financées, ce qui est un paradoxe tout à fait intéressant, par l'Union européenne, certains même par des organisations américaines, et ont parfaitement conscience de la force de frappe, de l'importance dans la société civile géorgienne. Aujourd'hui, les partis politiques en Géorgie jouent un rôle relativement mineur pour toute une série de raisons sur lesquelles on reviendra peut-être. Mais c'est essentiellement les ONG, qui occupent une place importante depuis longtemps d'ailleurs, qui sont à l'avant-garde de la lutte pour la démocratie contre cette loi inique. Et il va de soi que pour le pouvoir, les détruire, moi je pense qu'il ne s'agit pas de les faire taire, il s'agit de les détruire, est tout à fait essentiel.
Puisqu'on parle de financement étranger, est-ce que cette loi pourrait aussi viser des organisations qui seraient financées par des fonds russes ?
Étrangement, il n'y a aucune mention de financement russe. Et le gouvernement qui, depuis le début de la guerre en Ukraine, se tait totalement au sujet de la Russie, il est absolument interdit, quand on est membre du parti REB géorgien, de prononcer le mot Russie. Très clairement, ils ont une directive venant de la haute direction du parti, a priori de Bidzina Ivanishvili, le milliardaire qui contrôle ce parti, de ne jamais mentionner la Russie dans un contexte négatif. Alors après, ils expliquent pourquoi ils font ça. Ils disent qu'ils veulent la paix avec la Russie et ils montrent souvent l'exemple de l'Ukraine comme un exemple négatif, en disant: est-ce que vous voulez la guerre, comme en Ukraine, en diffusant les images de Mariupol, de Boutcha, etc. Nous, dans notre politique sage d'accommodement avec la Russie, on a évité la guerre. Donc c'est un discours aussi qui vise les États-Unis et l'Union européenne en les accusant d'attiser la guerre. Ce que disait Marc au début, le milliardaire, pour la première fois, a prononcé un discours extrêmement et violemment anti-européen, anti-occidental, en qualifiant l'Union européenne et les États-Unis de responsables de la guerre en 2008 en Géorgie, de responsables de la guerre en 2014 en Ukraine et de responsables de la guerre en 2022 en Ukraine. Donc ça s'était jamais arrivé avant. Une dernière chose que je voudrais rajouter à ça, par rapport au financement, le plus grand agent de l'influence étrangère est le gouvernement géorgien lui-même, qui reçoit énormément d'argent de l'Union européenne pour tous les programmes sociaux, tous les programmes de médicaux, tous les programmes d'infrastructures, du développement du pays, de l'écologie, de l'environnement. Tous ces besoins du pays, de la société, sont à très grande échelle financés par les agences européennes, par les fondations, parfois de certains membres de l'Union européenne, des fondations allemandes, des fondations suédoises, sont extrêmement actives. Donc le gouvernement bénéficie de cet argent également.
Marc Semo.
Alors, ce mouvement, alors déjà celui de l'année dernière, et cette année encore plus, est énorme. C'est-à-dire, ce sont des dizaines de milliers de personnes dans un pays qui fait 3,7 millions d'habitants, donc c'est un mouvement de masse. En même temps, c'est un mouvement quand même qui a l'air totalement spontané, où les partis ne jouent aucun rôle. Alors, est-ce que ça peut déboucher, par exemple, comme on l'avait vu à Kiev en 2014, sur un Maïdan, c'est-à-dire, il y a des points communs, et évident, dans les deux cas, c'est un pouvoir qui faisait semblant d'être pro-européen et qui en réalité était totalement tenu par la Russie, qui au moment fatidique a décidé de jouer la carte de la Russie, et justement qui a été renversé par une rue qui brandissait les drapeaux nationaux et les drapeaux de l'Europe. Est-ce qu'on peut imaginer, de ce point de vue-là, qu'en Géorgie aussi, il y ait quelque chose qui se cristallise et qui aille au-delà de la simple protestation contre la loi?
Et pour éviter d'essayer de lire dans l'avenir, ce qui est toujours un peu difficile, on peut aussi se demander si c'est ce que craint le gouvernement. Charles Urjavitz.
Le gouvernement craint, bien entendu, d'être débordé par la rue. Le gouvernement craint, comme on l'a mentionné tout à l'heure, de perdre les élections en octobre. Le gouvernement, aujourd'hui, semble décidé à aller jusqu'au bout pour étouffer ce mouvement. Le gouvernement joue de manière extrêmement brutale sur la peur qu'un certain nombre des Géorgiens ont d'une guerre avec la Russie. 2008 est ressassé de manière permanente. Le gouvernement également joue sur la situation très difficile de l'Ukraine aujourd'hui. C'est une manière de laisser penser aux citoyens géorgiens que, certes, vous pouvez toujours manifester, mais pouvez-vous réellement compter sur l'Union européenne et sur les Occidentaux ? Voyez ce qui arrive à ces pauvres Ukrainiens. Il y a beaucoup de cynisme, il y a, je dirais, beaucoup de médiocrité aussi. Je suis très, très frappé par la médiocrité du personnel politique au pouvoir actuellement en Géorgie. C'est effrayant, c'est effarant même. Et on se demande s'ils sont encore en phase avec leur propre société. Je crois qu'ils s'adressent aux éléments les plus retardataires, les plus conservateurs, les plus réactionnaires. Ils n'ont absolument aucun lien avec l'histoire de la Géorgie, mais malheureusement, c'est le propre, je dirais, de tous les pouvoirs qui se sont succédés en Géorgie depuis 90-91. Mais je suis très, très frappé par la médiocrité face à cette foule jeune, dynamique, très ouverte, souvent ignorante, mais qui en même temps sait ce qu'elle veut et sait vers quoi elle veut aller.
Vous dites un gouvernement qui est déconnecté de la Géorgie, le parti, le rêve géorgien, aux élections de 2020, a tout de même obtenu 48% des suffrages. Quelle est sa base électorale, ses soutiens ? Est-ce que c'est quand même pas un parti qui a quand même une base de soutien et qui rencontre un certain écho quand même au sein de la population ?
Oui, alors les élections, c'est un thème assez particulier en Géorgie. Oui, le rêve géorgien a gagné plusieurs élections d'affilée. La façon dont sont organisées les élections en Géorgie mérite une attention particulière. Le rêve géorgien, par exemple, dépense au moment de la campagne électorale sur 10 euros dépensés par tous les partis réunis, 9 euros sont dépensés par le rêve géorgien et 1 euro par tous les autres partis qui se présentent aux élections. Alors, contrairement à la Russie, ces partis ne sont pas interdits et ils peuvent se présenter aux élections, mais d'emblée, les dés sont pipés. Le rêve géorgien a complètement nettoyé toute la sphère publique des gens qui ne sont pas d'accord avec le rêve géorgien. Donc, il y a un clientélisme absolu, c'est-à-dire même les enseignants dans les écoles maternelles sont recrutés et en échange donc ils doivent le jour du vote apporter leur bulletin photographié apporter à leur coordinateur qui est représentant du parti. Donc il y a énormément de pression, énormément de moyens pour sans falsifier complètement les élections comme en Biélorussie ou en Russie. Ça existe également, mais à la marge. Ils ont beaucoup plus de moyens d'utilisation de la ressource administrative, de la menace, crime organisé. Alors ça, c'est crime organisé, le genre des élections, fait pression directe dans la rue sur les électeurs. Depuis quelques jours, on voit que les manifestants, les gens les plus actifs dans la société civile et les manifestants les plus actifs, sont attaqués, agressés dans la rue, devant leur domicile, dans la nuit. Et c'est fait par ces petites frappes qui sont recrutés, rémunérés par le gouvernement, et ça ressemble de plus en plus aux autres pays autoritaires du type Nicaragua ou Biélorussie, où les opposants politiques, sans être membres des partis politiques, sont agressés, menacés au quotidien.
Vous vouliez réagir,
oui,
Charles Gilles.
J'ajouterais à ce que vient de dire Tourniquet, qu'on a vu le rêve géorgien, qu'on a vu Ivanishvili en personne, pratiquement, liquider les dettes de centaines de milliers de Géorgiens très endettés. Voilà.
En échange d'un vote.
Non, pour les deux tours des élections. Il faut dire que sa fortune équivaut plus ou moins à un tiers du PIB.
35% du PIB annuel du pays.
Alors, il faut qu'on dise un peu plus, qu'on dise un mot de qui est Bidzina Ivanishvili, dont on parle depuis tout à l'heure, parce que cet homme dont vous parlez, dont l'homme fort du pays, il n'a absolument aucune fonction officielle, il n'est pas membre du gouvernement, il ne siège pas au Parlement. Qui est cet homme? Quel est son pouvoir, Tornike Gordadze?
Comme disait Marc, déjà, les chiffres. Il a, d'après Forbes, sa fortune personnelle, c'est 6-7 milliards de dollars ou d'euros. C'est à peu près un peu plus d'un tiers du PIB annuel du pays. Il y a un seul pays au monde qui peut concurrencer la Géorgie, c'est le sultanat de Brunei et son sultan, si vous voulez. Ce pays n'a pas de prétention de rejoindre l'Union européenne, je parle de Brunei. Alors, en Géorgie, la personnalité d'Ivanishvili est absolument déterminante. Tout le gouvernement est composé de ses anciens employés, les gens qui travaillaient dans ses banques, dans ses différentes entreprises. Le premier ministre précédent était son employé personnel de la maison, enfin, qui réglait ses affaires quotidiennes. Le ministre de l'Intérieur, c'est l'ex-garde de corps, chef de garde-corps de ce milliardaire. L'ancien ministre de la Santé était la dentiste de son épouse, etc. On peut multiplier les exemples. Tous les membres du Parlement élus sur la liste du rêve géorgien vouent une loyauté personnelle à M. Bidina Ivanishvili. Et Ivanishvili a détruit petit à petit tous les îlots d'indépendance qui existaient dans le pays. Récemment, c'était la Banque Centrale, où il a nommé quelqu'un qui lui est totalement fidèle et qui ne respecte plus, absolument plus, la Constitution est complètement passée. C'est quelqu'un qui rend service directement aux intérêts d'Ivanishvili. En parallèle de cette loi, il y a une loi qui a été adoptée par le Parlement sur le rapatriement de l'argent des offshore, en même temps. Et donc Ivanishvili, qui se sent menacé maintenant par la communauté, par l'Union européenne, par les États-Unis, pense qu'il y a un risque de sanctions contre lui, rapatrie son argent qu'il a placé un petit peu partout dans le monde et transforme la Géorgie en une sorte de paradis pour cet argent noir des pays ex-soviétiques. Donc c'est extrêmement dangereux ce qui est en train de se passer en Géorgie, en parallèle avec cette loi sur les agents de l'étranger.
Marc Semo.
Oui, et pour compléter le tableau sur le personnage, il y a quand même Bidina Ivanishvili, a le passeport français depuis 2010, il l'a gardé.
Oui.
Il a même été décoré en 2021.
Le moment était très bien choisi.
De la Légion d'honneur, je ne sais pas quel grade de la Légion d'honneur. Donc, est-ce qu'il y a les moyens, justement, pour la France, de jouer un rôle, y compris pour une sortie de crise par le haut, c'est-à-dire d'abord de veiller aussi à ce que les élections d'octobre prochain soient aussi équitables que possible. Est-ce que la France a des moyens d'agir justement grâce à ça? D'autant que par ailleurs, la présidente géorgienne, même si elle n'a pas beaucoup de pouvoir, Salomé Zourabichvili, est une ancienne diplomate française, alors qui elle, en revanche, a renoncé pour occuper ses fonctions à sa citoyenneté française, mais voilà, qui est quand même ici comme à la maison.
Sur ce point.
Oui, la France a une carte majeure à jouer. S'il y a un pays européen qui peut jouer un rôle pour désamorcer cette crise, c'est bien la France, à cause de la citoyenneté de M. Ivanishvili aussi. On a parlé du moment Maïdan, de comparaison a été faite avec le moment de quand Yanukovych a été renversé en Ukraine. Si on veut éviter le même scénario, c'est-à-dire l'intervention russe, l'effusion de sang, parce qu'on est à deux doigts maintenant en Géorgie, on voit cette foule de plus en plus importante, on passe aux intimidations de plus en plus grandes, mais le 11 mai, par exemple, il y aura une très grande manifestation de l'opposition. Le gouvernement diffuse les images de répression de différentes manifestations dans le monde occidental pour dire regardez, nous on va faire la même chose. Il se rappelle des souvenirs de 9 avril 89 où 25 manifestants ont été tués par l'armée russe en disant attention, ne provoquez pas ça. Donc on est dans un moment extrêmement critique et la France peut évidemment proposer à M. Ivanishvili des garanties parce que cet homme, la seule chose qu'il cherche, c'est des garanties pour son argent et pour sa sécurité personnelle. Donc si aujourd'hui, il va de plus en plus vers la Russie, c'est qu'il se sent menacé par la Russie. Donc on peut, je ne sais pas, je ne suis pas dirigeant français, mais la France a une carte à jouer pour sortir la Géorgie de cette crise, aider M. Ivanishvili à obtenir ce qu'il cherche, sa sécurité personnelle, la sécurité pour son argent, et sauver la Géorgie de l'effusion de sang et de l'intervention russe. Ça, c'est tout à fait possible. Dernière chose, pourquoi pour la France ça peut être important? La France essaye de jouer un rôle important en Arménie. L'Arménie est un pays enclavé. Si la Géorgie tombe aux mains de la Russie, qui est totalement contrôlée par la Russie, il faut oublier l'Arménie, parce que le seul moyen pour l'Arménie d'échapper au contrôle russe et de se rapprocher de l'Union européenne, c'est aussi en quelque sorte un lien avec la Géorgie.
Charles Urjavitz, vous voulez réagir?
Oui, je rebondirai sur ce que vient de dire Tourniquet. Le problème, c'est que jusqu'à aujourd'hui, la France est très absente. Très, très absente. L'Union européenne est très présente par ses représentants, par son ambassadeur, qui est un Polonais d'ailleurs. Très présente également par des députés européens qui ne sont pas toujours des références. Je pense à certains députés, certaines députées du PiS polonais. Mais je crois que la France, aujourd'hui, a effectivement un rôle tout à fait majeur à jouer en Géorgie. Et j'aimerais entendre des voix qui aillent au-delà du rôle de simple observateur.
Et j'ajoute sur ce sujet, on a appris ce matin que l'ambassadeur de France avait présenté l'ambassadeur de France en Géorgie, pardon, de Géorgie, avait présenté sa démission. Sur la question de la perspective européenne pour la Géorgie, le discours que tient le gouvernement, et vous le disiez tout à l'heure, Tornike Gordadze, le discours de Ivanishvili du 29 avril était en quelque sorte un tournant, puisque pour la première fois, il tenait un discours véritablement anti-occidental, alors que jusqu'à présent, on avait une posture plus ambiguë en tout cas, qui jouait le jeu des étapes de l'intégration. Un des arguments qu'on entend du côté du gouvernement, c'est de dire il faut être prudent, il faut ménager Moscou, parce que ce qui nous pend au nez, c'est à la fois le scénario ukrainien, et c'est aussi ce qui s'est passé en 2008, l'intervention russe qui a... et la Géorgie s'est retrouvée amputée de 20% de son territoire. Comment est-ce que ce discours-là prend-il? Quel écho a-t-il au sein de la population géorgienne? Tornike Gordadze.
Ce discours prenait un peu, c'est-à-dire quand la guerre a commencé, la guerre à grande échelle a commencé en Ukraine en février, l'immense majorité des Géorgiens soutiennent l'Ukraine. Il y a entre 1000 et 1500 et 3000 Géorgiens qui sont battus dans les rangs de l'armée ukrainienne. Il y a plus de 60 morts parmi les Géorgiens, des volontaires géorgiens qui se battent dans l'armée ukrainienne. Mais le gouvernement s'est désolidarisé complètement à la fois de l'Ukraine, mais aussi de ses citoyens géorgiens qui combattent en Ukraine pour montrer sa loyauté à Moscou. Mais ça, on pourrait comprendre la prudence, évidemment. On ne veut pas avoir la guerre importée en Géorgie, mais qu'est-ce qui oblige le gouvernement d'adopter cette loi qui n'a rien à voir avec la paix ou avec la sauvegarde de la sécurité du pays? C'est une loi directement inspiré par la loi russe de 2012. On a vu les conséquences de cette loi en Russie. Il n'y a plus de médias indépendants, il n'y a plus de société civile, sans parler de l'opposition. C'est exactement ce chemin que le gouvernement géorgien a choisi. Ça n'a rien à voir avec la sécurité ou avec la paix. Et ce discours ambigu fonctionnait pendant un certain temps, mais aujourd'hui, ça ne marche plus. Et s'ils entretenaient ce discours ambigu, c'est qu'ils savent que y compris leurs électeurs, une partie de leurs électeurs, est favorable au rapprochement avec l'Union européenne. Donc ils disaient, nous voulons l'Europe, mais de notre propre façon. Et tout de suite, comme ils ne peuvent pas dire à la population que l'Europe c'est mal, ils disent, oui mais l'Europe, vous savez, c'est aussi le mariage homosexuel. L'Europe c'est l'absence de différence entre les genres. L'Europe c'est absence de... Il n'y a plus de papa, il n'y a plus de main. Donc c'est le discours russe qui est importé, qui dit, nous voulons l'Europe, mais avec nos propres valeurs. L'Europe est contre le christianisme, l'Europe est contre les valeurs traditionnelles. Donc ils discréditent, ils essayent de discréditer l'Europe petit à petit pour l'érosion, pour provoquer l'érosion du soutien de la population à l'Union européenne, sauf que là, le timing n'était pas très bien choisi, parce qu'on a vu que la population n'était pas du tout prête à renoncer à ce rêve géorgien, et surtout depuis la reconnaissance du statut de candidat par l'Union européenne pour la Géorgie.
D'après différents sondages, il y aurait à peu près 80% de la population géorgienne qui serait en faveur de l'adhésion à l'Union européenne, et vous le disiez, y compris même au sein du parti, des électeurs du parti Le Rêve Géorgien qui dirige la Géorgie. Est-ce que cette défense de l'adhésion à l'Union européenne signifie pour autant qu'il faut être anti-russe? Le projet européen s'inscrit nécessairement dans un rapport conflictuel ou de rupture avec Moscou, Charles Jurjevitch?
Il est implicite. Ceci étant dit, je pense que l'Europe dont rêvent les Géorgiens, ce n'est pas une Europe qui se bat contre la Russie, c'est tout simplement une Europe qui leur apportera sécurité, paix et prospérité.
Démocratie
je pense que par-delà la démocratie est certainement très importante pour beaucoup de Géorgiens, mais je crois que l'Europe, c'est aussi un rêve caressé par les Géorgiens depuis des siècles, en fait. C'est une manière de rejoindre enfin cette partie du monde à laquelle on aspirait et dont on était coupé par la faute du grand frère russe.
Vous écoutez Culture Monde, l'historien Charles Urjavitz et le politiste et ancien ministre géorgien Tornike Gordadze sont nos invités pour parler de la crise politique en Géorgie. Comme chaque semaine, nous sommes en partenariat avec Cartooning for Peace, cette association de dessinateurs du monde entier. C'est la bulle cartooning.
Il fait le clown.
Mais on a été créé pour faire rire les hommes, mon vieux.
Assis.
Et le dessin qui nous est parvenu cette semaine est signé Vladimir Kazanevski. C'est un caricaturiste ukrainien. Un dessin à la fois simple et efficace. Il s'agit d'une souche d'arbres et sur ce reste de tronc qui semble avoir été coupé récemment, deux feuilles subsistent. À droite, une feuille aux couleurs du drapeau russe. À gauche, une feuille aux couleurs du drapeau géorgien. Au milieu, une hache plantée dans le bois. Elle sépare de sa lame les deux feuilles comme si elle voulait séparer la souche en deux. Alors, est-ce une image du territoire géorgien dont 20% est passé sous le contrôle de l'armée russe en 2008 ou bien la métaphore d'un pays tiraillé entre ses liens historiques à la Russie et à l'URSS et l'affirmation de son identité nationale? Je laisse l'appréciation à nos invités. Charles Urjavitz, qu'est-ce que vous inspire cette caricature?
Pour moi, bon, ce dessin est très explicite. C'est couper tout simplement la Géorgie de la Russie. Lui éviter de partager un même tronc. Lui permettre de voler de son propre cours, d'être libre tout simplement.
Donc la hache serait plutôt l'intégration à l'Union européenne, si on suit votre raisonnement.
Oui, c'est un peu brutal, mais quand on est ukrainien aujourd'hui, on a le droit à une certaine brutalité.
Un dessin qui sera à découvrir sur le fil du compte Twitter de l'émission et sur la page internet de Culture Monde, Tornike Gordadze.
Oui, mais la métaphore de la hache, je ne partage pas forcément, parce que c'est le choix du peuple géorgien. Ce n'est pas une force extérieure qui force les Géorgiens de rejoindre l'Union européenne, ou de rejoindre même l'OTAN. Parce qu'on a souvent tendance en France à dire, oui, c'est l'élargissement de l'OTAN. L'élargissement de l'OTAN ou l'élargissement de l'Union européenne, c'est pas aux dépens de ces pays. Ces pays eux-mêmes aspirent à très grande majorité de rejoindre ces organisations occidentales. En Géorgie, il y a beaucoup plus de pro-européens qu'en Moldavie ou même qu'en Ukraine avant le début de la guerre. Ce pays a toujours été à très grande majorité attiré par l'Union européenne. Les partisans de la Russie sont extrêmement minoritaires. C'est ça le paradoxe du pays. C'est pour ça aussi que le gouvernement est dans une dissonance cognitive totale en critiquant totalement l'Union européenne, en disant que l'Union européenne veut la guerre, l'Union européenne envoie des agents, etc. Et tout en disant à l'opposition, mais nous voulons poursuivre notre intégration au sein de l'Union européenne, mais avec nos propres valeurs. Donc c'est un discours complètement contradictoire qui crée de l'ambiguïté, mais c'est aussi l'une des caractéristiques de cette propagande à la russe, où crée l'incompréhension, que les gens abandonnent, se disent ok, on comprend rien, la seule chose qu'on comprend c'est la sécurité, on veut la paix. Alors s'il y a la guerre avec l'Union européenne, bon, on va peut-être réfléchir à deux fois, mais ils n'arrivent pas. C'est un discours qui ne prend pas. C'est un parti, le rêve géorgien, qui sert les intérêts d'un homme, ses intérêts financiers, ses intérêts personnels, et qui est capable de faire changer cette orientation géopolitique du pays pour servir ses intérêts.
Mais justement, à quel point cet homme, donc le milliardaire Ivanishvili, est-il lié à la Russie? Qu'est-ce qu'on sait très concrètement aujourd'hui des liens qu'il peut entretenir même directement avec Vladimir Poutine? Est-ce que c'est une relation avant tout d'ordre financier économique, puisqu'il a fait sa fortune en Russie et qu'il pourrait y perdre gros? Est-ce que c'est ça qui joue? Est-ce que c'est une adhésion de fond politique sur les valeurs, sur la vision du monde qui est alignée avec Moscou? Est-ce que c'est la peur de la répression? Voilà, juste pour avoir des éléments pour bien comprendre cette orientation de ce gouvernement visiblement plutôt pro-russe. Charles Urjavitz.
Il est pro-russe, entre guillemets, par intérêt, tout simplement. Ce n'est certainement pas un choix idéologique. Il s'agit pour lui de trouver l'allié qui lui permettra de s'en sortir au mieux.
Personnellement,
financièrement, etc. Bon, je crois que c'est tout à fait essentiel. Je voudrais ajouter à propos de de ce dessin, un élément qui est tout à fait essentiel, je crois, pour comprendre ce qui se passe dans la rue à Tbilissi aujourd'hui et peut-être dans d'autres villes très bientôt maintenant. Il y a déjà des manifestations dans certaines villes de province. C'est que des milliers, des dizaines de milliers, des centaines de milliers de Géorgiens sont allés dans l'Union européenne. Ils ont la possibilité de voyager. Et je crois que c'était une très très grande avancée. Et le discours du pouvoir ne tient pas pour ces jeunes Géorgiens qui sont allés à Paris, à Berlin ou ailleurs, et pour lesquels l'Union européenne, sans être un rêve fou, est une réalité, tout simplement.
C'est le système de libéralisation des visas dont bénéficient les Géorgiens depuis
2017.
Et qui visiblement a eu un effet sur la vision qu'on a de l'Union européenne. Tornike Gordadze, aujourd'hui en Géorgie, je crois qu'environ 100 000 Russes ont émigré depuis 2022, depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Comment cette diaspora pèse-t-elle sur la situation actuelle ? Ce sont des gens qui sont venus pour des raisons diverses, mais une partie en tout cas pour fuir le service militaire. Est-ce que c'est aujourd'hui un poids dans ce petit pays, cette diaspora russe ?
Cette arrivée massive des Russes a certainement changé la situation économique au pays. Il y a eu une augmentation assez nette des loyers parce qu'il s'agissait avant tout des Russes qui avaient les moyens d'émigrer, de vivre. C'était souvent des entrepreneurs, de petits entrepreneurs, des gens qui travaillaient online. C'est des gens qui pouvaient établir leurs affaires en dehors du pays, en dehors de la Russie. Il y a eu cet effet politiquement parmi eux, il y a toutes sortes de personnes. Il y a des gens qui s'opposent très, très franchement au régime de Vladimir Poutine, d'autres qui sont partis par mesure de sécurité pour éviter le service militaire. Politiquement, ils ne pèsent pas encore. On ne voit pas dans ces manifestations apparaître les Russes ou les Russes soutenir la politique du gouvernement. C'était un sujet d'actualité au début, en 2022, 2023, mais maintenant, c'est un petit peu écarté par ce qui se passe en politique intérieure et notamment par ces mobilisations de masse. Il faut souligner que 50 000, 100 000 personnes se réunissent quasi quotidiennement dans les rues de Tbilissi jusqu'à très tard dans la nuit, et c'est quelque chose qui est assez inédit. Et surtout, j'ai jamais vu de cette génération, nouvelle génération qui a aujourd'hui entre 18 et 25 ou 30 ans, des étudiants, parfois des lycéens, parfois des jeunes actifs, qui sont totalement, qui comprennent très bien ce discours orwellien du gouvernement et qui n'acceptent pas et qui sont totalement déterminés. Alors le gouvernement a essayé de mobiliser de son côté les gens, surtout en faisant venir par les bus les gens de différentes villes des provinces qui travaillent dans les agences étatiques, mais c'était deux mondes. C'est-à-dire ces gens-là étaient là pour une heure, ils n'étaient absolument pas motivés. La seule chose qui les motivait, c'est le besoin de conserver leur job, de ne pas perdre leur travail. Donc c'est deux mondes qui sont complètement différents, et c'est la détermination de cette population, de ces manifestants, qui va s'avérer décisif.
Et dénouement à suivre le 17 mai, la date à laquelle le texte passera pour une dernière lecture au Parlement. Merci beaucoup à tous les deux pour vos éclairages. Charles Urjavitz, je rappelle, historien, professeur émérite à l'INALCO. Merci à vous, Tornike Gordadze, politiste enseignant à Sciences Po et ancien ministre de 2017 à 2012 pour l'intégration européenne et euro-atlantique de la République de Géorgie. Merci beaucoup, Marc Semo. On se retrouve la semaine prochaine. Et la semaine prochaine, eh bien, ce sera une série consacrée au cinéma, une passion mondiale. Nous vous proposerons une plongée dans quatre univers cinématographiques particulièrement créatifs et dynamiques. On ira du côté de l'Iran, où l'on continue de produire et de voir des films malgré le strict encadrement du régime. Au Nigeria, pour raconter le succès phénoménal de Nollywood. En Chine, qui fait le pari des super productions. Et on commence lundi en Corée du Sud, les ressorts de la Korean Mania. Et dans un instant, les midis de culture.